Vous allez recevoir une force, avait promis Jésus avant son ascension, avant d'être enlevé au ciel. Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi nous avons en première lecture le récit du martyr d'Étienne. Le plus beau témoignage, le témoignage jusqu'à la mort, le martyr. Et le texte est magnifique. Étienne voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est ce que nous venons de célébrer à l'Ascension. Alors, Étienne voit Jésus debout à la droite du Père. Dans le credo, nous disons qu'il est désormais assis à la droite de Dieu, peu importe. Dans la bouche d'Étienne, cette vision dit simplement qu'il est ressuscité. C'est ça, être debout, ressuscité, vivant. Et lorsque nous disons qu'il est assis à la droite du Père, nous entendons par là qu'il siège. Il est le juge des vivants et des morts. Il siège désormais à la droite du Père. Et il est important d'ajouter, il siège distinctement. Distinctement du Père. Le Père et le Fils sont à la fois unis dans la Sainte Trinité, mais distincts. Distingués pour unir. C'est le très beau titre d'un livre de Jacques Maritain. Distinguer pour unir, ou les degrés du savoir. Distinguer pour unir, c'est la base de la connaissance, et en particulier la connaissance de Dieu. Les trois personnes divines sont unies, un seul Dieu, mais trois personnes distinctes, ce qui permet au Fils de prier le Père, et au Père et au Fils d'envoyer l'Esprit. Et voilà de quoi nous, disciples du Christ, nous sommes les témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre, dit Jésus. Et s'il le faut, jusqu'au don de notre vie. Nous sommes les témoins à la fois de cette unité fondamentale de l'amour, mais de cette unité qui respecte chacune des personnes distinctes. C'est ce que nous vivrons en Dieu dans la vie éternelle. Avec cette donnée, cette conséquence formidable, cette bonne nouvelle que je vous annonçais pour ceux qui étaient là au jour de l'Ascension, à notre mort, ou après notre mort, nous ne disparaissons pas. Notre âme ne se fond pas dans un grand tout. Ce serait la pire erreur d'interpréter ainsi la prière de Jésus à son Père, qu'il soit un en nous, un. Eux aussi, moi en eux et toi en moi. D'imaginer, pour le dire de façon concrète, ce que vous entendez régulièrement, d'imaginer que notre âme à notre mort va se fondre en Dieu, un peu comme une flamme dans un grand feu, ou encore, pour une autre image, comme une goutte d'eau dans un océan, l'océan de la miséricorde de Dieu. Non, l'amour de Dieu, l'amour divin n'est pas fusionnel, il n'absorbe pas, nous ne disparaissons pas à notre mort. Dieu ne nous a pas créés uniques. De la même façon que Dieu est unique, chaque personne est unique. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous disparaissions. Au contraire, il s'est fait l'un de nous, il s'est fait homme. Il a vécu notre vie, notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Il a souffert la passion, il est mort, il est ressuscité, pour nous rendre participants de sa divinité, participants de la vie divine, participants à part entière. Unis à lui, mais distincts. Ça, nous n'avons pas de mal à le comprendre à l'égard de Dieu. Mais unis à lui et distincts les uns des autres. Voilà la bonne nouvelle de l'Ascension. Voilà la bonne nouvelle de notre espérance. Nous retrouverons ceux que nous avons aimés. Nous les retrouvons par la résurrection avec un corps que nous appelons glorifié, ressuscité, c'est-à-dire purifié, mais ce corps nécessaire pour entrer en relation les uns avec les autres. La première bonne nouvelle de l'Ascension, c'est que la résurrection n'est pas une réincarnation. Comme disait la lettre aux Hébreux au jour de l'Ascension, le sort des hommes est de mourir une seule fois. Nous n'avons pas à reprendre vie et à mourir de façon indéfinie. La résurrection, c'est une glorification, c'est l'entrée dans la gloire éternelle de Dieu. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la résurrection, c'est la poursuite parfaite, ce que nous appelons l'accomplissement des relations d'amour que nous aurons vécues en cette vie. Pourquoi est-ce que Jésus prie pour ses disciples ? Dans cette grande prière, dans ce chapitre 17 de Saint Jean, au moment de passer de ce monde à son Père, ou plutôt, pourquoi prierait-il pour ses disciples s'il n'était pas certain de les retrouver ? De les retrouver vivants dans la gloire, non seulement de les retrouver après sa résurrection, mais après son ascension dans la gloire du ciel. Là où je suis, vous y serez aussi. Lorsque la Bible, plutôt même de façon plus précise, lorsque l'Esprit Saint, dans un psaume, par la voix du psalmiste, dit, je cite le psaume 102, dit que l'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit, dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était, l'ignore. Lorsque l'Écriture parle ainsi de l'être humain, elle ne parle pas de l'homme, parle pas de nous, appelé à la vision de Dieu, appelé à la vie éternelle en Dieu. Elle parle ainsi de l'homme pécheur, marqué par le péché, elle parle de la personne humaine dans son orgueil. Parce qu'il faut lire la suite. « L'amour du Seigneur, dit le psaume, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours. À tous ceux et celles qui auront accueilli mon amour, tous ceux et celles qui se seront laissés aimer, dit le Seigneur, je garderai pour toujours une relation personnelle. Une relation personnelle. Nous viendrons vers lui, chez lui nous nous ferons une demeure. » Alors oui, je conçois que pour des esprits forts, pour la raison humaine marquée par le péché, il puisse être assez satisfaisant de penser que l'âme, après la mort, se fond dans un grand tout. De penser que finalement, l'âme humaine, c'est effectivement cette petite étincelle qui va dans un grand feu. Mais c'est une conception qui se trompe sur Dieu et qui se trompe sur l'homme. Dieu n'est pas un grand tout. Il est l'amour dans la communion des personnes. Il est la Trinité une et sainte que nous fêterons dans deux dimanches après avoir reçu l'Esprit Saint de façon nouvelle à la Pentecôte. Le paradis, la vision de Dieu, le bonheur éternel, nous le vivrons, c'est la promesse du Seigneur, avec tous ceux et celles que nous aurons aimés et qui se seront laissés, comme nous, purifiés par l'Esprit Saint, que nous retrouvons auprès du Christ, dans la gloire. Oui, nous nous retrouverons pour tous ceux qui auront accueilli l'amour du Seigneur. Et nous croyons au purgatoire, c'est-à-dire au pardon des péchés, à la délivrance de nos erreurs. Et nous croyons aussi à la possibilité de l'enfer, c'est-à-dire de la damnation, de ceux qui ne refuseront définitivement l'amour de Dieu, et simplement même l'existence seule de Dieu, ceux qui préféreront être damnés que de reconnaître qu'ils se sont trompés, même qu'ils n'ont cessé de mal se comporter, qui préféreront l'errance que le pardon. Mais c'est aussi pour eux que sans cesse nous prions pour que leur cœur s'ouvre. Que leur cœur s'ouvre à l'amour de Dieu, c'est ce que le Seigneur... Je ne prie pas seulement pour eux, je prie pour ceux qui ne me connaissent pas encore, dit le Seigneur. Dieu n'est pas un grand tout. Quel est d'ailleurs le grand tout qui demanderait à chaque personne, qui nous demanderait à chacun d'entre nous, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?